Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au menu du jour, les élections australiennes, vous le savez, le jour J, ce sera le 21 mai, mais en fait, les bureaux de vote sont ouverts depuis hier. Jean-Noël Ducasse vous expliquera comment se déroule ce vote par anticipation. Et puis, c'est peut-être la première fois que vous votez pour des élections fédérales en Australie. Alors on vous dira quelles sont les conditions et les modalités pour pouvoir voter. Ça, c'est Thomas Mercier qui va se charger de vous l'expliquer. On retrouvera aussi, comme d'habitude, les actualités sportives. Et puis, en fin d'émission, on fera le point avec Anne-Sophie Pink sur les activités prévues à l'Alliance française de Melbourne ce mois-ci. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va. À la une de l'actualité ce mardi 10 mai 2022. Ferdinand Marcos Jr., le fils de l'ancien dictateur, vient d'être très largement élu président des Philippines après une campagne marquée par une vague de désinformation sur les réseaux sociaux concernant le bilan de son père à la tête de l'État, dont il avait été chassé par le peuple en 1986. En Australie, les bureaux de vote sont ouverts depuis hier. Plus de 300 000 personnes ont déjà mis leur bulletin dans l'urne. Et puis, en France, l'ouverture du procès de la Yemenia Airlines, 13 ans après le crash d'un avion au large des Comores, dans lequel 152 personnes avaient perdu la vie. C'était jour d'élection présidentielle hier aux Philippines et alors que maintenant environ 90% des bulletins de vote ont été dépouillés, c'est Ferdinand Marcos Jr. qui l'emporte haut la main avec plus de 30 millions de voix, soit plus du double que sa principale rivale, la vice-présidente sortante Leni Robredo. Le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos, chassé du pouvoir en 1986 après avoir détourné des milliards de dollars et emprisonné un certain nombre de ses opposants, Ferdinand Marcos Jr. est donc en passe de devenir le premier président philippin élu avec une majorité absolue. Les explications de Stéphanie Schuller pour Radio France Internationale.
36 ans après avoir été chassé du pouvoir, le clan Marcos fait son retour au palais présidentiel à Manille. Ferdinand Marcos Jr. doit sa victoire écrasante à deux facteurs. D'abord, une large campagne de désinformation menée pendant plusieurs années sur les réseaux sociaux. Objectif, faire passer auprès des jeunes philippins la dictature de son père comme une ère de paix et de prospérité, en passant sous silence les arrestations arbitraires, la torture et les assassinats d'opposants. Et puis, plus près du jour de vote, une série de tractations en coulisses avec d'autres clans politiques et notamment son alliance avec Sara Duterte, fille du chef de l'État sortant. La victoire de Ferdinand Marcos Jr. suscite d'ores et déjà de vives inquiétudes chez les défenseurs des droits de l'homme et dans les rangs de l'Église catholique. Après 6 ans de gouvernance autoritaire sous le président Rodrigo Duterte, ils craignent que le fils de l'ancien dictateur Marcos ne dirige les Philippines de façon encore plus autocratique.
On reste en Asie et on prend maintenant la direction du Sri Lanka, un pays qui s'enfonce encore un peu plus dans la violence. Sur cette île peuplée par 22 millions d'habitants, la vie est secouée depuis maintenant des semaines par des manifestations de masse provoquées elles-mêmes par de graves pénuries de nourriture, de médicaments ou encore de carburant. Les manifestants dénoncent l'incapacité du gouvernement à faire face à cette crise et hier, le Premier ministre Mahinda Rajapakse a remis sa démission au président, président qui est son frère, Gotabaya Rajapaksa. Une annonce qui n'a toutefois pas permis d'apaiser la colère puisqu'hier encore, à Colombo, la capitale, mais aussi dans de nombreuses autres villes du pays, la journée a été émaillée par des violences. On fait le point une fois encore avec Stéphanie Schuller de RFI.
Depuis sa démission, le Premier ministre Mahinda Rajapakse est retranché dans sa résidence officielle à Colombo. En fin de soirée, le bâtiment est assiégé par des milliers de manifestants anti-gouvernementaux déterminés à en découdre. Ils enfoncent le portail d'entrée, des coups de feu sont tirés depuis la résidence. La police assure avoir tiré en l'air et avoir fait usage de grenades lacrymogènes pour repousser les assaillants. La colère des protestataires est encore montée d'un cran ce lundi. Dans la journée, ils se sont fait attaqué par des milliers de partisans des frères Rajapakse, armés de bâtons et de matraques. Mais les violences ne se déroulent pas seulement dans la capitale. À une cinquantaine de kilomètres au nord, un député du parti au pouvoir s'est suicidé après avoir ouvert le feu sur deux manifestants anti-gouvernementaux qui bloquaient sa voiture. Dans le sud du Sri Lanka, un autre député du parti au pouvoir a également tiré sur des protestataires. Deux d'entre eux sont morts sur le coup. Alors que le président condamne les violences commises par les manifestants, l'ambassade des États-Unis à Colombo dénonce les violences perpétrées contre des protestataires pacifiques.
Stéphanie Schuller pour RFI. Allez maintenant en direction la Bolivie où 4 étudiantes ont été tuées lors d'une bousculade provoquée par le tir d'une grenade lacrymogène au milieu d'une foule. Une foule qui était en fait une assemblée étudiante qui s'était réunie à l'université de Potosí, une ville qui se trouve à environ 400 km de la capitale La Paz. L'assemblée étudiante en question avait pour objectif d'élire de nouveaux représentants des élèves. D'après le recteur de l'université, les 4 victimes sont donc des femmes. Il a également précisé que 70 autres personnes avaient été blessées. Certaines sont en unité de soins intensifs. Quant à la personne qui a lancé cette grenade lacrymogène dans la foule, elle n'a pour l'heure pas été identifiée. La police a ouvert une enquête. En Australie, le jour J des élections fédérales, ce sera le 21 mai prochain, mais les bureaux de vote, sont en fait ouverts depuis hier et d'après la commission électorale, plus de 300 000 personnes ont déjà mis leur bulletin dans l'urne. Cette procédure de vote anticipé est un corollaire du vote obligatoire. Tom Rogers, le président de la commission électorale, n'est pas surpris par le nombre d'électeurs qui sont allés voter dès hier. Mais dans une interview accordée au Nine Network, il appelle tous ceux qui le peuvent à attendre le 21 mai pour aller voter. Et ce, parce que plus il y a de votes anticipés, plus il est difficile de déterminer le soir même de l'élection un résultat clair.
We're all in that together. It's a community event. Everyone sees everyone voting, and that's a really important part of the process. You know, I had to be an election nerd for a minute, but the more votes in envelopes through pre-poll and postal, the harder it will be to determine a result on the night, particularly if you have a large number of close seats. So it's just they're the reasons why.
Même si certains Australiens ont déjà voté, la campagne électorale continue pour les candidats. Le leader travailliste Anthony Albanese était aujourd'hui à Melbourne où, aux côtés du premier Daniel Andrews, il a promis plusieurs milliards de dollars d'argent fédéral pour financer la construction d'une ligne de train, en l'occurrence une boucle ferroviaire qui relierait les banlieues est et ouest de la ville ainsi que la future ligne de train vers l'aéroport et ce sans passer par le centre de la ville. Bref, un genre de grand Melbourne Express, un peu à l'image du Grand Paris Express en cours de construction dans la région parisienne. Un grand Melbourne Express dont la construction des 29 premiers kilomètres sur un total de 90 est estimée à plus de 30 milliards de dollars. Anthony Albanese, qui a été ministre des Transports dans le gouvernement de Kevin Rudd, a indiqué qu'il souhaitait prioriser le développement des transports urbains.
If you get advice from any transport economist and you look at the way that cities work, Infrastructure Australia and the Major Cities Unit that I established, that this government abolished the Major Cities Unit. One of the works that they did was that you need to prioritise urban public transport and you need to fix the way that they operate.
Dans le territoire du Nord, son actuel dirigeant, le travailliste Michael Gunner, vient d'annoncer qu'il se retirait de la vie politique pour des raisons familiales. Sa femme a accouché d'un deuxième enfant il y a quelques semaines et après cette naissance, il a expliqué ne plus être entièrement dévoué à la politique. Il a la tête ailleurs. Rappelons que Michael Gunner est entré dans la vie politique en 2008 en tant qu'élu travailliste dans une circonscription de Darwin. Il était devenu le chef ministre du territoire du Nord en 2016, puis il a été réélu en 2020 lors des dernières élections dans ce territoire. On se tourne maintenant vers la Nouvelle-Galles du Sud où le gouvernement libéral a indiqué qu'il soutenait la position de la coalition au niveau fédéral concernant la création d'un organisme anti-corruption. Lors d'une conférence de presse à Sydney, aujourd'hui Scott Morrison a réitéré ses attaques à l'égard de la commission indépendante anti-corruption qui existe au niveau de la Nouvelle-Galles du Sud. Et il a estimé qu'il ne s'agissait pas là du bon modèle pour le reproduire au niveau fédéral. Des critiques donc répétées et dont s'est fait l'écho le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet.
I believe the Prime Minister and I are completely on the same page in relation to driving integrity in public office, whether that's politicians or the public service. I agree with the Prime Minister in relation to it's not a one-size-fits-all approach.
Le Queensland, pour sa part, est de nouveau en proie à des pluies torrentielles cette semaine. Un homme d'une vingtaine d'années a d'ailleurs été secouru alors qu'il était pris dans une inondation par les services de secours dans une banlieue de Mount Isa hier soir. Les services météorologiques annoncent pour leur part un niveau de précipitation 10 fois supérieur à la moyenne pour le mois de mai. Précipitation qui pourrait tomber au cours des seules 24 à 48 prochaines heures. Enfin, un mot d'économie pour signaler une victoire pour les travailleurs de ce qu'on appelle la gig economy. La plateforme de livraison de repas DoorDash vient de signer un accord historique avec des syndicats de transport à propos de ses collaborateurs auto-entrepreneurs. En vertu de cet accord, les livreurs qui travaillent pour la plateforme pourront bénéficier de formations, accéder à un certain nombre de droits et de protections et également s'exprimer collectivement. C'est le premier accord de ce type en Australie signé par des syndicats et une plateforme de type Uber. Après l'Union européenne, voici la communauté politique européenne. C'est la nouvelle entité institutionnelle proposée par Emmanuel Macron lundi, un projet qui doit être soumis aux députés européens ainsi qu'aux dirigeants des 27 pays membres de l'UE, qui permettrait d'accueillir notamment l'Ukraine, et ce, beaucoup plus rapidement que via le processus d'adhésion classique à l'Union européenne, qui, d'après le président français, prendrait une dizaine d'années. Les explications d'Anthony Latier pour RFI.
Les Ukrainiens frappent à la porte de l'Union européenne, il faut leur ouvrir, assume Emmanuel Macron.
L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre union.
Oui, mais voilà, ajoute le chef de l'État français, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE prendrait plusieurs années, voire plusieurs décennies. Le président appelle donc à la création d'une autre organisation plus large, une confédération européenne, une idée défendue par son prédécesseur François Mitterrand en 1989.
Sa proposition n'eut pas de postérité, mais elle posait une bonne question et cette question demeure. Comment organiser l'Europe ? D'un point de vue politique, et plus large que l'Union européenne. C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierai aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne.
Emmanuel Macron envoie ainsi un message aux Ukrainiens, ne vous découragez pas, et un message au président russe Vladimir Poutine en lui signifiant que pour lui l'Ukraine est dans l'Europe, peu importe qu'elle adhère ou pas à l'Union européenne. Anthony Latier, Strasbourg, RFI.
Et avant de rejoindre l'Union européenne, l'Ukraine malheureusement reste confrontée à des difficultés bien plus urgentes, l'invasion de l'armée russe, une offensive dont les Nations unies craignent qu'elle devienne de plus en plus violente. C'est ce qu'a indiqué lors d'une visite en Moldavie le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a été même jusqu'à indiquer que les conséquences de cette guerre en Ukraine étaient trop inquiétantes pour ne serait-ce qu'y penser.
The impact of the war in Ukraine across the region and the world is profound and far-reaching. The consequences of escalation are too frightening to contemplate. I am deeply concerned about the continuation and possible spread of the war Russia is waging in Ukraine and by the impact it is having not only in the region but around the world.
C'était le 30 juin 2009, le vol Yemenia 626 se crachait dans l'océan Indien au large des Comores, une catastrophe qui a entraîné la mort de presque tous les passagers, 152 personnes, une seule jeune femme avait survécu à ce crash. Et hier, le procès de cette compagnie aérienne s'est ouvert à Paris. Je vous propose d'écouter ce qu'en attend le président de l'association des familles des victimes, Saïd Assoumani. Il s'exprime au micro de Sylvie Kofi pour RFI.
Cet accident est dû à des fautes graves au niveau de l'organisation de l'aéroport, au niveau de la formation des pilotes, éventuellement au niveau de la qualité sécuritaire des avions. Donc là, on a assisté aujourd'hui au passage du premier expert qui démontre exactement l'étendue de l'enquête et qui prouve exactement les deux principales cause de ce drame qui est la mauvaise qualité de la formation des pilotes et le problème de l'aéroport.
Au niveau de cet A310, cet appareil était interdit sur le sol français.
Exactement, il est interdit sur le sol français mais il est utilisé ailleurs. Et c'est là, ça va être le nœud, le vrai nœud du problème, c'est le fait qu'on les interdit ici et que c'est utilisé sur d'autres cieux sans contrôle du tout.
Pour terminer ce journal, un mot sur la météo du jour en Australie. Soleil et 25 degrés à Perth, temps ensoleillé également à Adelaide où il fait 20 degrés, 19 degrés à Melbourne où le ciel est bleu aujourd'hui. Quelques averses en revanche à Sydney où le thermomètre affiche 23 degrés. Les pluies sont en revanche plus soutenues dans le Queensland où une alerte inondation, je vous le rappelle, a été émise pour plusieurs secteurs de ce grand état. En termes de température, il fait 23 degrés à Brisbane et 28 à Cairns. Enfin, 33 degrés et du soleil aujourd'hui à Darwin.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le tennis et l'exploit de Alcaraz, l'Espagnol contre d'abord Nadal, son compatriote, et ensuite contre Djokovic. Et en finale, il a battu l'Allemand Zverev. On écoute sa réaction, une finale disputée donc à Madrid pour le fils du sol.
Je me considère comme un joueur qui est en train de très bien jouer. J'ai su apprendre des défaites et j'ai continué à travailler pour Barcelone et Madrid. Je pense que je suis un rival difficile pour mes adversaires. Moi, je dois m'améliorer. Tout le monde peut progresser. Il n'y a jamais de limite. Regardez Nadal, Federer, Djokovic, tous, ils se bonifient. Je continue de m'améliorer. Roland Garros, je crois que cette année, les gens vont me donner favori pour l'emporter, mais je ne vois pas ça comme un poids, mais plutôt comme une motivation. J'ai très envie d'aller à Paris et j'ai envie de montrer mon meilleur niveau dans un grand chelem.
Et maintenant, l'analyse du match avec Pierre Chaperon pour RFI.
Cela faisait longtemps que le central Manolo Santana de la Caramarica, lieu de ce Masters 1000 madrilène, n'avait pas autant rugi de plaisir. La raison, son nouveau chouchou, Carlos Alcaraz, 19 ans, vainqueur cette année du Masters 1000 de Miami et des tournois de Barcelone et de Rio, et donc maintenant dans la capitale espagnole. Durant cette semaine, il est devenu le premier joueur à battre sur terre battue son idole et référence Rafael Nadal, puis le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. En finale, face au numéro numéro 3 mondial, l'Espagnol a tout réussi. Coup droit, revers, service, 1h04 de jeu, 6-3, 6-1 contre un Alexander Zverev, visiblement fatigué d'avoir terminé ses deux derniers matchs au-delà de minuit.
Il a super bien joué, il n'y a aucun doute là-dessus.
Favorisé ou non par les organisateurs, Alcaraz, lui, mesurait le chemin parcouru. Lui, l'enfant d'El Palmar, dans la région de Murcie, au sud-est de l'Espagne.
Je me rappelle de mes premiers tournois de jeunes vers Murcie et c'est vrai que je n'imaginais pas du tout arriver à ce niveau et remporter ce tournoi de Madrid. Ce que je sais, c'est que la compétition, c'est toute ma vie. J'aime bien m'entraîner, mais je reste un garçon qui aime davantage la compétition. Pendant ma jeunesse, je pensais surtout à jouer.
Au-delà de ce succès, c'est aussi la confirmation que l'Espagne possède encore un joueur appelé à durer et à gagner sur terre battue. De bon augure à 2 semaines de Roland-Garros.
On passe au foot. L'OM revient à la 2e place en Ligue 1 dimanche après sa victoire 3-0. Le reportage de Martin Guez pour RFI.
Monaco, dauphin rieur depuis vendredi, a été délogé par Marseille, dauphin sérieux depuis le début de la saison. Sérieux encore hier à Lorient, succès 3-0 qui fait du bien après la déroute face à Lyon et l'élimination en Ligue Europa Conférence cette semaine. Un but, une passe D pour le Sénégalais Bamba Dieng. Un joli slalom pour Matteo Guendouzi, content de voir son équipe à nouveau sur de bons rails.
Je pense que tout le monde a pris du plaisir, c'est toujours une immense fierté de marquer un but déjà. Et voilà, je pense que 3-0, le score est mérité. On a fait vraiment un bon match dans l'ensemble. Et voilà, on avait à cœur de se rattraper par rapport à l'élimination en conférence et aussi le dernier match qu'on a raté à domicile contre Lyon. Donc voilà, c'est de très bon augure.
Matteo Guendouzi au micro de Canal+. Dans les autres matchs, le PSG a fait match nul 2-2 face à 3. Lyon perd 3-2 à Metz. Bordeaux coule 4-1 à Angers. Enfin, à noter qu'en Espagne, le Real, déjà titré et sans Karim Benzema, a perdu le derby 1-0 contre l'Atlético.
On revient sur la Coupe de France du week-end dernier. Nantes qui a battu Nice 1-0 lors de la finale à Paris. Et puis, ce fut le retour à la maison pour les Nantais. Mathieu Bonneau. RFI.
Milliers de personnes acclament l'équipe à son arrivée après 2 heures de retard. Thomas est revenu du Stade de France dans la nuit. Il a un maillot signé par presque tous les joueurs.
Ça fait plaisir de les entendre nous remercier. Je pense que les supporters cette année ont eu de l'importance dans les résultats.
Depuis le toit du bus impérial, les joueurs sautent et mettent l'ambiance. Le jeune attaquant Randal Kolo Muani est déchaîné.
Allez, on a gagné ou pas ?
Avec son maillot des années 90, Eric est très ému de revoir son équipe remporter un titre, le premier depuis 21 ans.
Pour le plaisir de la communion, le plaisir de partager, de jouer et enfin le plaisir de pouvoir communier dans une victoire avec tout le monde. C'est multiplié parce que personne n'a donné un copec sur Nantes.
De son côté, Simon est un peu déçu. Il aurait aimé encore plus d'ambiance avec les autres supporters et surtout de pouvoir s'approcher des joueurs.
On les a attendus longtemps déjà, ils se sont fait désirer. On sait qu'elle est à la maison quoi.
Elle ressemble à quoi cette coupe ?
Elle est belle.
Au moment du départ, Nicolas a réussi à avoir une photo avec un des attaquants du FC Nantes.
Bah c'est magnifique, une petite coupe à la maison, c'est bien. Bah parce que c'est un moment inoubliable et puis on va dire que ça fait 22 ans qu'on ne l'a pas vu, donc on peut voir ça tous les jours.
Après 1 heure de fête, le bus repart avec les joueurs du FC Nantes, mais surtout avec la Coupe de France posée sur le pare-brise.
Et en Angleterre, Manchester City passe en tête après une victoire écrasante, 5-0 contre Newcastle. Philippe Auclair et Christophe Direnzian pour RFI.
Désormais une avance de 3 points sur Liverpool avec une différence de but positive de plus 68, ce qui est assez exceptionnel quand on y pense, contre plus 64 à Liverpool. Un programme qui a priori serait plus favorable pour les Citizens. Ce week-end devait vraiment être le week-end des révélateurs en quelque sorte. Et Manchester City l'a dominé haut la main avec un excellent Raheem Sterling, avec un très bon Jack Grealish. Le seul point noir, c'est la blessure dont a été victime Ruben Dias, qui est sorti en cours de jeu. Mais cela dit, l'avantage est très largement à eux. Et si vous voyez l'expression de Pep Guardiola après cette rencontre contre Newcastle et que vous la compariez à celle de Pep Guardiola après le match contre le Real Madrid, il n'y a vraiment pas photo ou il y a photo au pluriel. Mais le résultat est là. Liverpool, donc, est à 3 points de Manchester City, et je dirais même à 4 dans la mesure où la différence de but 68 pour City, 64 pour Liverpool, est celle qui va compter, puisqu'en Angleterre, à la différence d'autres pays, ce n'est pas la différence de but particulière qui va compter, mais la différence de but tout court.
Un mot sur la Coupe d'Afrique du week-end dernier, et bonne nouvelle pour le TP Mazembe, comme nous l'explique Martin Guez pour RFI.
Les Corbeaux qui retrouvaient une vieille connaissance en demi-finale allée de la Coupe de la Confédération, à savoir les Marocains de la Renaissance de Berkane, entraînés par un certain Florent Ibengué, ancien sélectionneur de la RDC. À Kamalondo, les Louchois l'ont finalement emporté 1-0 sur un but de John Bakata sur le fil. Entré à la 87e, il marque de la tête à la 94e minute. Le TP Mazembe qui avait longtemps buté sur le gardien marocain. Alors libéré, délivré, l'entraîneur Franck Dumas par ce but tardif? Eh bien pas vraiment.
La pire première mi-temps qu'on ait fait depuis chez TP Mazembe. Vraiment la pire. Dans l'intention, dans l'intensité, dans les déplacements. On a balancé des ballons alors qu'il n'y avait pas lieu de balancer. Il y avait des problèmes. Donc à la mi-temps, on va dire que j'ai mis une bonne secousse. Et puis on a retrouvé notre équipe avec les mêmes joueurs. Les occasions, on les a. Il faut les mettre dedans, c'est tout. On sait que c'est un petit peu notre péché mignon, mais félicite quand même les joueurs d'avoir toujours insisté et toujours. Parce que c'était la seule chose à faire. Deuxième mi-temps, on avait une équipe du TP qui a posé beaucoup plus le jeu et qui était beaucoup plus dangereuse.
Ça balance pas mal le péché pas si mignon du TP Mazembe. Franck Dumas au micro de Pascal Mangala. Les joueurs de Lubumbashi prennent tout de même une option sur la finale avant le retour la semaine prochaine au Maroc. Dans l'autre demi, les Sud-Africains des Orlando Pirates ont fait un grand pas en l'emportant 2-0 à Tripoli face aux Libyens d'Al Ahly.
Cyclisme Giro après la Hongrie pour les trois premières étapes. Ce sera la première journée en Italie ce mardi. Dimanche, je rappelle que Mark Cavendish, le Britannique, a gagné la troisième étape devant le Français Arnaud Démare. Et le Giro, je rappelle, c'est sur SBS à la télé tous les soirs. Un mot de Formule 1 pour vous dire que Max Verstappen a signé sa troisième victoire de la saison à Miami. Cette fois-ci, le Néerlandais est arrivé devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Et Lewis Hamilton est arrivé à la 7e place et l'Australien Ricciardo a pris la 11e place. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Serge Gainsbourg en duo ici avec Brigitte Bardot sur ce morceau devenu mythique, Bonnie and Clyde, 13h31, vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français. On fait une toute petite pause et puis juste après, on retrouve Thomas Mercier qui va vous expliquer comment voter aux élections fédérales en Australie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Comment voter en Australie? 17 millions d'Australiens sont inscrits sur les listes électorales pour les prochaines élections fédérales. En Australie, un organisme indépendant gère le système électoral. La Commission électorale australienne veille à ce que tous les citoyens éligibles aient la possibilité de contribuer à façonner notre gouvernement fédéral. Cette semaine, on vous explique comment voter. Le jour des élections, la Commission électorale australienne, ou AEC, attend 1 million d'électeurs toutes les heures dans les centres de vote à travers le pays. Le vote est obligatoire pour toute personne inscrite sur les listes électorales. Vous devez vous assurer de voter dans votre propre circonscription électorale, déclare Jess Lilley, porte-parole de l'AEC.
There are 151 federal electoral divisions in Australia and we've got a great tool on the website aec.gov.au. You'll be able to input your suburb or postcode to find out what electoral division you'll be voting in. But you can also give us a call on 13 23 26 to talk to an AEC staff member or access our telephone interpreter services.
L'AEC coordonne des milliers de bureaux de vote le jour du scrutin. Les écoles et les salles paroissiales font partie des lieux où vous pouvez voter. Toutes les informations relatives aux élections sont disponibles sur le site internet de l'AEC.
You'll be able to input your suburb and your postcode, and our tool will help you find who your candidates are, as well as where you can actually cast your vote.
Dans les bureaux de vote, vous avez accès à toutes les instructions et une assistance dans plusieurs langues, explique Evan Henkin-Smith, porte-parole de l'AEC.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have interpreting service via telephone that you can access. So if you think you'll need to access these sorts of services, there's a number on our website, aec.gov.au/translated. You call up that number and you'll be able to ask questions and have somebody in language instruct you as to how to cast a formal vote.
Les équipes mobiles de l'AEC rendront également visite aux personnes vivant dans des établissements de soins et des communautés éloignées pour s'assurer que tout le monde ait accès à l'information. Les électeurs qui ne peuvent pas se rendre dans un bureau de vote le jour du scrutin ont la possibilité de voter d'une autre façon.
If you have a barrier to voting on election day, there are early voting centres in the weeks leading up to polling day. And likewise, if you're unable to get to an early voting centre, you can cast a postal vote as well.
Pour une demande de vote par correspondance, visitez le site web de l'AEC après l'annonce de l'élection, explique Madame Lillet.
This year it's going to be really open for postal voting given the COVID circumstances. We'll also have that postal vote application for people who don't feel comfortable going to a polling place or live remotely or working remotely and need to access those postal voting services.
Si vous êtes en quarantaine en raison d'une infection au COVID, vous pouvez accéder au système de vote par téléphone de l'AEC. Les détails seront disponibles après l'annonce des élections. Si vous prévoyez d'être dans un autre État australien le jour du scrutin, vous pouvez utiliser un vote par correspondance ou vous rendre dans un centre de vote interétatique. Vous pouvez également voter si vous êtes à l'étranger. Des formulaires de notification d'un voyage à l'étranger sont disponibles sur le site internet de l'AEC ainsi que différentes options adaptées à votre situation personnelle. Certains hauts commissariats australiens proposent également des centres de vote. Au moment de voter, vous apercevrez à l'extérieur des bureaux de vote les partis politiques distribuer des informations sur le vote. Ne vous laissez pas influencer, indique l'analyste électoral William Bowe.
What the parties do is that they hand out how to vote cards at polling booths on election day that recommend that you fill out your ballot paper a certain way. You don't have to vote that way. It's just a recommendation.
Aux élections fédérales, vous voterez pour votre représentant local.
While people usually think of an election in terms of choosing the national leader will be the leader of the party who wins the most seats in parliament and you will not be voting for that leader directly.
Les électeurs reçoivent deux bulletins de vote, un vert et un blanc. Le bulletin de vote vert consiste à voter pour qu'une personne de votre électorat rejoigne la Chambre des représentants, aussi nommée la Chambre basse du Parlement. Il y a actuellement 151 sièges à la Chambre des représentants. Représentant chaque circonscription électorale, explique Monsieur Bowe.
It's in the lower house that the government is formed and it is the party that wins the most seats in the lower house that typically forms government.
Le chef du parti ou de la coalition devient Premier ministre. Pour voter sur le bulletin vert, vous écrivez le chiffre 1 à côté de votre candidat préféré, puis 2 à côté de votre deuxième choix et continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les cases soient numérotées. Le bulletin de vote blanc permet d'élire l'un des 76 sièges au Sénat, la Chambre haute. Vous voterez pour élire un sénateur de votre propre État ou territoire. Le vote est légèrement différent, explique M. Bowe. Nous avons des bulletins de vote relativement longs parce que tous les candidats de l'État y sont inclus.
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line. Boxes above the line, there are one for each party. The quickest and simplest way to vote is to pick your six favorite parties and number them in order of your preference from one to six. If you are particular about which candidates you want to vote for, you can number a lot more boxes below the line. If you vote below the line, you have to number at least 12 boxes.
Ce système de vote est appelé vote préférentiel. Numéroter les cases par ordre de préférence permet à votre vote d'avoir plus de poids, déclare Monsieur Bowe.
The seat is not simply won by the candidate who gets the most crosses next to their boxes on the ballot papers. You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote, then you exclude the last place candidates, you look at those ballot papers again, and then you move those votes on to whoever they put second. and you keep eliminating the last place candidate until you end up with a candidate who does have over 50% of the vote.
Assurez de suivre attentivement les instructions de vote. Si votre bulletin vote n'est pas rempli correctement, il devient un vote nul et n'est pas pris en compte dans le résultat de l'élection. Quelques exemples de vote nul incluent le fait de remplir les cases avec une coche ou une croix au lieu d'un chiffre, ou d'écrire quelque chose sur le bulletin de vote qui pourrait vous identifier. Le vote est obligatoire. Les motifs valables d'abstention sont à la discrétion de l'AEC, qui évaluera votre situation particulière. L'AEC comprend, par exemple, que certaines personnes se trouvant à l'étranger puissent ne pas être en mesure de voter. Ne pas voter peut entraîner une amende, explique le porte-parole de l'AEC, Akin Smith.
If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice. If you have a valid reason, that's fine, you just let us know. Otherwise, you have to pay the $20 fine, and if we don't get a response from that non-voter notice, it could end up in court with a $170 fee and associated court costs.
La vraie sanction est cependant de ne pas avoir votre mot à dire, alors effectuez toujours des recherches et votez en toute connaissance de cause. Pour plus d'informations et savoir comment voter, rendez-vous sur le site internet de l'AEC, aec.gov.au, ou vous pouvez téléphoner au 13 23 26.
Eddie Mitchell, Johnny, Christophe Maé. C'est celui de ton boula. On s'en bat les couilles de tes vacances. Les vacances qu'on veut voir, c'est celles de ton boula.
Aurel San en duo sur ce morceau intitulé Christophe avec Maître Gims, un morceau extrait de l'avant-dernier album du rappeur normand. Vous êtes toujours sur SBS, il est 13h43 et je vais maintenant passer la parole à Jean-Noël Ducasse. Il va tout vous dire sur le fonctionnement du vote anticipé en Australie.
Environ 500 bureaux de vote par anticipation ont maintenant ouvert leurs portes depuis lundi le 9 mai dans tout le pays. Et cette année, la commission électorale australienne estime qu'environ la moitié des électeurs inscrits auront fait leur choix avant le jour du scrutin le 21 mai prochain. Un dossier de SBS News. De plus en plus de personnes inscrites sur les listes électorales choisissent de voter avant la fin de la campagne électorale et il y a de nombreuses raisons pour cela.
I have a health problem, so that's why I come in. Always vote early because I get dropped off and people pick me up, you see.
I've come to vote early because I'm leaving to fly to Europe on Thursday. So I'll not be in Australia when the election is held.
Always do that. We always do pre-vote here.
Le vote anticipé a nettement augmenté ces dernières années. En 2013, un peu plus d'un quart des électeurs inscrits l'ont fait avant le jour du scrutin. Trois ans plus tard, cela a augmenté de près de 5%. Et en 2019, il était passé au-dessus de 40%. Evan Akin-Smith est un des porte-parole de la commission électorale australienne et il pense que cette tendance se poursuivra lors de cette élection de 2022.
Of course, we're conducting this election in a COVID pandemic. If you combine postal voting and pre-poll voting at the previous federal election 2019, it was about 40% of voters who turned out prior to election day. You could potentially see half the Australian voting population turning out before election day this federal election.
Selon un communiqué de la commission électorale australienne, quelques 280 000 personnes ont déjà voté par anticipation le lundi 9 mai, bien plus que les 120 000 personnes qui l'ont fait lors des élections de 2019. Les deux chefs des deux principaux partis ont reconnu le début du vote par anticipation. Le dirigeant travailliste Anthony Albanese faisait campagne à Adélaïde le lundi 9 mai.
The bells are tolling for the Morrison government because early voting starts today. It says it all that the Morrison government have had a phone hookup with members of their caucus telling people to not vote early. We want people to participate in our democracy and to vote whenever is convenient.
Le Premier ministre Scott Morrison, quant à lui, se trouvait dans une base navale à Nowra, en Nouvelle-Galles du Sud.
Right now today, people are turning up and voting at pre-poll. Over in Nowra right now, right across the country. And they're making a choice. And over the course of this campaign, people are making assessments, and so many, as we're seeing, are still to make a decision over the next couple of weeks.
Evan Eakin-Smith de la Commission électorale australienne dit que l'AEC, Australian Electoral Commission, fait déjà ce qu'elle peut pour aider les électeurs dont la langue maternelle n'est pas l'anglais.
We translate our material, including our advertising campaign, into about 33 different languages, which is a really important thing for us to be doing. And really, we've got tools like practice voting tools on the website, and a range of material that really explains it.
Ce dossier de SBS News de John Baldock, présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Le rail, c'est chic, c'est le nom du morceau qu'on vient d'entendre. Il est interprété par Cheb Mami. On arrive maintenant dans la dernière séquence de notre émission et on va la confier à Jean-Noël Ducasse. Il est allé voir Anne-Sophie Pink. Elle nous parle des activités prévues en ce mois de mai à l'Alliance française de Melbourne.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir Anne-Sophie Pink, qui est la directrice par intérim de l'Alliance française de Melbourne. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Jean-Noël.
Et on se parle en ce début du mois de mai. Peut-être tout d'abord, on va revenir légèrement en arrière pour peut-être parler de l'Alliance française French Film Festival. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un petit bilan de l'édition de 2022?
Oui, bah écoutez, c'était une édition qui a eu beaucoup de succès. On a accueilli à peu près plus de 45 000 spectateurs. Donc, ce qui est extraordinaire, surtout en cette année particulière liée au Covid. Les films qui ont eu le plus de succès ont été Farewell, Mr. Hoffman, Lost Illusions, Maigret, Full Time. On avait une très très bonne sélection puisqu'on avait 42 films à l'affiche. Donc une bonne session, oui. Un bon festival.
Un bon festival. Et là, vous êtes en deuxième trimestre. Il y a beaucoup de cours. Rappelez un petit peu ce que vous offrez à l'Alliance française de Melbourne.
Oui, Jean-Noël. Alors, on offre des cours normaux pour les débutants jusqu'au niveau très avancé qui sont sur 10 semaines et qui ont repris la semaine dernière. Et on offre également des cours thématiques. Et pour cette deuxième partie du trimestre, donc qui reprendra le 23 mai, on vous a gâté. On a un joli programme automnal à vous proposer. Donc si vous allez en France, vous pouvez faire le plein de vitamines françaises avant votre voyage ou vous pouvez vous coucouner tranquillement à Melbourne en suivant nos cours. On aura un cours sur le vin, oui, où les étudiants pourront découvrir les régions viticoles de France et déguster aussi un verre de vin en classe. Nous emmènerons également les étudiants dans un voyage gastronomique en France. On parlera de fromage, de plats traditionnels, etc. Et on aura, pour ceux que ça intéresse et qui sont trendy, funky, on aura aussi des sessions sur la pop culture à la française. Donc vous saurez tout sur la musique, les émissions de télévision et les séries qui sont à la mode en France.
Je ne sais pas si les groupes de conversation ont repris chez vous à l'Alliance française.
Oui, alors pas le mardi, mais nous avons tous les mercredis matin des cours de conversation. Oui. Ce ne sont pas vraiment des cours, c'est plus une rencontre entre étudiants ou entre personnes qui le désirent à Rêverie, le café qui est à Prane.
Et puis le book club, est-ce que le book club continue?
Le book club continue et il a un grand succès. On affiche complet. Donc si vous voulez y participer le trimestre prochain, n'hésitez pas à nous contacter rapidement. Vous nous envoyez un email à info@afmelbourne.com.au et on vous donnera toutes les informations par rapport à ce book club.
C'est bon de savoir que les activités culturelles reprennent chez vous. Et puis, il y a une date à noter, le 30 mai prochain. Je crois que tout le monde se réunit pour la réunion annuelle.
Oui, voilà. Le 30 mai prochain, nous avons notre Assemblée Générale. Donc, cela approche à grands pas. Cette Assemblée représente, comme vous le savez, Jean-Noël, un moment très fort pour la vie de notre association. N'oublions pas que c'est grâce à ses membres que nous existons, grâce à leur soutien, leurs idées, que nous pouvons aller de l'avant. Donc cette AGM est primordiale pour notre futur. Elle permet de rendre des comptes, de voir ce qui s'est passé en 2021 et aussi de voter pour élire de nouveaux représentants au conseil d'administration. Donc en gros, nous serons tous vraiment, vraiment ravis de vous retrouver le lundi 30 mai à partir de 18h30 au Commons à South Yarra pour une petite collation avant le début de l'assemblée à 7h. Et cette assemblée nous permettra également de nous revoir, d'échanger, puisque l'année dernière, cette assemblée générale était en ligne.
Et puis, on va parler de deux Save the Dates. C'est concernant la Bastille Day. C'est en juillet, c'est le 16 et le 17 juillet.
Oui, tout à fait.
Et déjà, les préparations sont en cours.
Les préparations sont en cours. Encore une fois, on est sur les starting blocks, puisque l'année dernière, malheureusement, ça n'avait pas eu à la dernière minute. Donc cette année, on est plus que prêt. Il y aura des stands de nourriture, de gastronomie, d'artisanat français, des ateliers qui satisferont petits et grands. On aura aussi notre exposition French Emotion, qui est une exposition interactive extraordinaire pour l'avoir fait auparavant, où les visiteurs pourront se rendre sur des sites culturels français, comme par exemple le Louvre, se balader dans les châteaux de la Loire, tout juste en utilisant en fait leur téléphone. Donc ça, c'est un moment super sympa à partager seul ou en famille.
Merci Anne-Sophie de nous avoir éclairé sur les activités qui viennent chez vous à l'Alliance française de Melbourne et à très bientôt sur SBS French.
Merci Jean-Noël, à très bientôt.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Des projectiles m'ont fendu l'occiput. Des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite surveiller. L'homme idéal, c'est moi.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau, L'homme idéal, du chanteur Bertrand Burgala, un morceau remixé ici par DJ Yuxek. Je vous propose de nous retrouver jeudi à 13h précise pour un nouveau rendez-vous en direct. Et d'ici là, vous pouvez continuer à nous écouter en podcast. Il vous suffit pour cela de taper SBS French pour nous trouver sur votre appli audio préférée. J'adresse un grand merci à John qui m'a accompagné à la technique pour cette émission et je vous dis aussi merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Passez une excellente après-midi et à très bientôt.
Ici on fait de l'art seulement. Déjà, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps cherché quelqu'un qui m'aime. L'homme idéal.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.